8h13, place à l'interview santé d'Europe 1. Sébastien Krebs, vous recevez le professeur Didier Pitté.
Bonjour professeur Pitté.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. À la fin du mois de juin, c'est le président Emmanuel Macron qui vous a confié cette mission, faire une sorte d'audit, une évaluation de la gestion française de l'épidémie. On va y revenir. D'abord, je voudrais vous entendre sur la situation actuelle. L'équilibre est fragile. Nous pouvons basculer à tout moment. Voilà ce qu'a écrit le Conseil scientifique dans son dernier rapport. On a vraiment le sentiment d'un retour d'un discours très alarmiste. Vous le partagez? On doit s'inquiéter à nouveau?
Écoutez, je crois que avant tout, il faut être extrêmement vigilant. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter. C'est vrai que à tout moment, cette pandémie, finalement, et la question n'est pas liée à un pays ou à un autre. On sait que le virus est endémique et que donc cette pandémie ou cette épidémie peut reprendre localement dans tous les pays, puisque le virus est là, puisque au fond, environ 10%, en moyenne de la population a été en contact avec le virus. Cela veut dire que le 90% ne l'a pas été encore et que donc le terrain de jeu, si je peux m'exprimer ainsi, du virus demeure 90% de la population ou 90% de la population pour vous. Il est certain donc que le virus étant endémique, on peut observer des phénomènes à tout moment, il est vrai.
Et une seconde vague, il y aura forcément un second pic à un moment ou à un autre?
Alors écoutez, il y aura forcément au minimum ce que j'appellerais, ce que certains ont appelé aussi, des vaguelettes, c'est-à-dire des petites vagues, puisque ce virus a la capacité finalement de faire des mini-clusters ou des mini-épidémies à tout moment. Il est là, les gens ont repris des activités, toute une série d'activités. À titre d'exemple, à Genève, nous avons réouvert, au même titre que le reste de la Suisse, les discothèques. Et deux semaines plus tard, nous avons dû finalement les refermer parce que près de la moitié des cas étaient liés à des jeunes, jeunes adultes ou adolescents qui s'étaient rendus en discothèque et avaient repris des activités dont on comprend que l'exposition entre personne est associé à un risque élevé. Et voilà, donc la vie.
Donc c'est bien ça qui est en cause, c'est la vie qui reprend et un certain relâchement.
Absolument.
Parce qu'on comprend qu'en vacances, on ne puisse pas toujours mettre un masque et qu'on a envie aussi d'embrasser nos proches.
Oui, alors évidemment, les consignes sont là, n'est-ce pas? La distance sociale, la consigne n'a pas changé. Elle doit être maintenue. L'hygiène des mains, la consigne n'a évidemment pas changé. Ça doit être maintenu. On ajoute volontiers le port du masque lorsque la distance sociale ne peut pas être respectée. Et puis, on réclame, évidemment, et on demande aux citoyens de se comporter en citoyen, c'est-à-dire d'aller se faire tester au moindre doute. Et évidemment, si le citoyen fait preuve de civisme, il va aller se faire tester et on va diagnostiquer finalement de nouveaux cas. Et c'est totalement attendu. Il faut que ça se passe comme ça. Donc, je pense que, au fond, on observe le fait d'une surveillance accrue, et plus intense sera cette surveillance, mieux ce sera pour tout le monde, quitte à évidemment à diagnostiquer de nouveaux cas, ce qui est totalement attendu encore une fois.
Ouais, alors justement, vous évoquez les tests, 500 000 la semaine dernière, on n'est toujours pas aux 700 000 qui étaient promis, et pourtant les ressources sont là, nous les avons ces tests, il y a des retards dans les laboratoires. Quel sens a un dépistage quand le résultat arrive 4 ou 5 jours après, quand c'est parfois le cas, et notamment, pour prendre l'exemple de la Mayenne, qui est pourtant un département extrêmement touché, et où il y a des retards pour tester et pour donner les résultats?
Oui, alors écoutez, dans l'idéal, bien entendu, que vous voulez que le retour du test soit là immédiatement, c'est-à-dire dans les 12 heures, dans les 24 heures, dans les 72 heures qui suivent, vous voulez avoir le résultat du test. Si le résultat du test ne vient qu'au cinquième jour, eh bien évidemment, il y a deux possibilités. Soit le risque était trop élevé, c'est-à-dire vous avez, en disant à votre patient, vous avez dit, écoutez, vous devez vous mettre en quarantaine quel que soit le résultat du test. Dans ce cas-là, que le test arrive un peu plus tard ne changera rien, le patient sera sous quarantaine, soit vous dites tout de même au patient d'être prudent et le patient va peut-être changer d'attitude jusqu'au résultat du test. Donc non, ça n'est pas inutile, c'est évidemment regrettable que le test soit, le résultat soit connu un peu plus tard que prévu ou que désiré, mais ça n'est jamais inutile, parce que de toute manière, de reconnaître les cas, de savoir que les cas sont identifiés, c'est extrêmement important. C'est la base de la surveillance.
Le conseil scientifique, dans son rapport publié hier, tient un discours très dur sur la gestion de l'épidémie en France, encore aujourd'hui. La prise en charge des clusters n'est pas optimale, des lenteurs à corriger, difficultés d'organisation sur les tests, on le disait, avec un nombre de centres de prélèvement insuffisant et des délais trop longs. Est-ce qu'on a encore, selon vous, le contrôle de cette épidémie ou est-ce qu'elle peut nous échapper ?
Écoutez, pour l'instant, je ne vais pas m'exprimer l'avis du Conseil scientifique parce que je ne suis pas dans la position de le faire. Nous avons une vision beaucoup plus panoramique sur le travail que nous avons seulement débuté avec le comité d'experts. Mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous vivons toujours cette même situation lorsque nous gérons et nous investiguons une épidémie. Alors là, c'est une épidémie au sens très très large puisqu'il s'agit d'une pandémie et que forcément on aura des situations dans lesquelles on ne pourra pas être parfait. Et on l'est jamais finalement parce que les fins limiers dont vous avez besoin en permanence ne sont pas toujours les fins limiers que vous attendez.
Mais une question très concrète parce que là c'est possible. On sait que les laboratoires sont surchargés. Est-ce qu'il faut tester et qu'on a désormais les tests? Est-ce qu'il faut tester beaucoup plus large, organiser des gymnases, des hangars pour tester tout le monde?
Alors, tester tout le monde, non, il ne faut pas tester tout le monde. Il faut bien entendu tester le plus possible là où la suspicion d'obtenir des positifs est élevée, n'est-ce pas ? Il faut tester autour des clusters, c'est ça qui est le plus important pour pouvoir mettre les bonnes personnes en quarantaine.
Et tester en dehors des labos, du coup, puis qui sont surchargés
Écoutez, il faut de toute façon un laboratoire au bout du compte pour analyser le test. Et on peut imaginer d'avoir ce qu'on appelle deux stratégies. Une qui est une stratégie à visée de diagnostic, c'est-à-dire où on suspecte que la personne sera positive. L'autre au fait du dépistage. Mais le dépistage, de dépister toute la France en travers ne sert à rien. Il faut vraiment aller faire du dépistage orienté dans des zones, dans des endroits dans lesquels on a des chances de retrouver évidemment des positifs. L'idéal étant d'obtenir un taux de positivité des tests de l'ordre du pourcent. De l'ordre du pourcent, ce qui est le cas dans beaucoup, beaucoup de régions. Et donc, je crois qu'il faut être attentif avant de dire qu'il faut tester à tout va. Il faut bien se dire que l'efficience de la stratégie doit être là aussi.
Le port du masque qui devient obligatoire dans les espaces publics ouverts dans un certain nombre de villes et bientôt à Paris, des espaces extérieurs, c'est vraiment efficace à l'extérieur ?
Alors écoutez, l'efficacité du port de masque, c'est évidemment toute une discussion. À partir du moment où vous pouvez garder la distance sociale, vous n'avez pas besoin d'un masque, soyons très clairs. Que ce soit d'ailleurs en intérieur ou en extérieur, à moins de conditions extrêmement particulières, de ventilation ou de vent ou des choses comme ça, mais ce sont des anecdotes. Donc en effet, le fait de demander et d'exiger le port du masque de manière plus systématique, y compris en extérieur, n'a rien à faire avec l'aspect scientifique de l'approche. Il a plutôt à faire avec l'aspect de discipline. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez que 100 personnes autour de vous portent un masque, eh bien vous êtes malvenu de ne pas porter un masque. Et c'est ça au fond l'effet de masque que vous essayez d'obtenir avec une telle stratégie. Ça n'a rien à voir avec la valeur scientifique du port du masque, si tant est que la distance sociale puisse être respectée, puisqu'à ce moment-là, il ne sera pas utile. C'est donc une question d'obtenir une discipline de groupe, et dans ce sens-là, ça fait sens dans certaines zones et dans certains moments au plan épidémiologique, en effet.
On dit que ce qui est le plus à risque en ce moment, c'est les retrouvailles en famille ou entre proches au moment des vacances, et on comprend qu'on ne mette pas forcément tous un masque quand on se retrouve pour un barbecue dans le jardin. Quel conseil vous donnez à tous ceux qui nous écoutent et qui justement retrouvent leurs proches et leurs amis en ce moment ?
Écoutez, alors je crois que d'essayer de garder cette distance sociale et de pratiquer l'hygiène des mains de manière répétée demeure les deux éléments piliers de la stratégie. Ensuite de ça, que lorsque on se retrouve, on se fasse une bise à l'occasion, ça n'est pas grave en soi. Ce qui est important, c'est de continuer à se dire qu'à partir du moment où on a un doute quelconque par rapport au fait de pouvoir être contaminé, on va immédiatement se faire tester et on dit à nos proches qu'on l'a fait, de manière à ce que nos proches le fassent aussi, de manière à ce que justement nous puissions finalement ne jamais perdre les chaînes de contamination. Et c'est ça la clé de la lutte contre la deuxième vague, c'est le maintien de la stratégie qui fait que les chaînes de contamination ne nous échappent pas. Et c'est ça la clé du succès.
Et on rappelle que depuis le 25 juillet, ces tests de dépistage peuvent se faire sans ordonnance dans les laboratoires et sont entièrement remboursés par la Sécurité sociale. Alors je le disais, professeur Pité, vous présidez depuis la fin juin une nouvelle instance, un comité d'évaluation sur la gestion de l'épidémie. Où en êtes-vous de cette mission et quand va-t-elle déboucher sur des premières conclusions ?
Alors écoutez, nous travaillons assez fort, je peux vous le dire, et au fond, pour l'instant, nous récoltons l'information, puisque la mission consiste à finalement récolter l'information existante au plan sanitaire, au plan économique, au plan social et sociétal. Donc vous imaginez que c'est une masse de données et d'informations que nous essayons d'obtenir et que nous obtenons d'ailleurs. La mission est faite de manière totalement indépendante et elle évolue.
On vous donne accès à tout dans les ministères qui sont impliqués ?
Absolument. Absolument, vraiment, vraiment. Alors ça, je tiens à le dire et je tiens à le souligner. C'est tout à fait remarquable. Nous sommes sous une masse d'informations. Et puis, nous commençons à récolter aussi de l'information d'autres pays de manière à pouvoir faire des comparaisons à l'international qui sont extrêmement importantes à réaliser.
Alors, quel est le plus gros raté que vous avez déjà identifié à ce stade ?
Pour l'instant, je vais pas répondre à cette question parce que nous n'avons pas encore établi de grille par rapport à l'importance des ratés. Je peux vous dire que tous les pays peuvent se dire qu'à un moment donné, ils auraient pu faire les choses différemment, plus rapidement, faire de la communication différemment, etc. Ça, je peux d'ores et déjà vous le dire, mais je ne vous en dirai pas plus et vous le comprendrez bien. Maintenant, le délai...
Vous direz tout avec une voix complètement indépendante ?
Pardon ?
Vous direz tout au gouvernement avec une voix complètement indépendante,
oui,
même
oui,
si c'est le président
c'est
qui
ce
vous
que,
a
c'est ce que
nommé.
Emmanuel Macron nous a demandé et m'a demandé personnellement au cours de l'entretien que nous avons eu, et ça sera très clair, bien entendu. Alors, le rapport sera rendu à la fin de l'année 2020, et il nous a demandé une forme de rapport préliminaire qui ne sera pas un rapport préliminaire, mais ils seront plutôt des conseils si nous voyons des choses qui peuvent être faites différemment au cas où nous sommes exposés à ce qu'on appellerait une deuxième vague. Je peux vous dire que pour l'instant, les efforts qui sont réalisés sont tout à fait remarquables. Ils le sont dans certains pays, ils le sont moins dans d'autres. Et on doit dire que là, actuellement, on voit bien que la lutte et les éléments de lutte sont extraordinairement importants et que ça doit continuer. Ce que nous espérons tous, c'est que les Français, comme d'ailleurs les Européens, malheureusement dans certains pays dans le monde, ce ne sera pas possible, puissent prendre des vacances pour se détendre, pour se reposer, pour essayer de prendre ces vacances en respectant les consignes, de manière à ce qu'à l'automne, chacun soit prêt à reprendre.
Ouais. Avec quelques contraintes malgré tout. Merci beaucoup, professeur Didier Pité, infectiologue, épidémiologiste. Vous présidez donc cette mission d'évaluation qui a été lancée sur la gestion française du Covid. Très bonne journée à vous.